j'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je partage pas au quotidien. En fait, souvent c'est ce que je dis quand je suis en conférence. Avant de vouloir réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. On ne fait rien de bien quand on a peur de se tromper. Moi, je le vis dans le monde de l'entreprise, tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, en disant, mais de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. C'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. C'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Jamais je m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Alors, tous les voyants ne seront pas ouverts. Si on pense que c'est une bonne idée, si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser, tentons-le. Écoute-toi, quoi. Écoute-toi et n'aie pas peur.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour être honnête, je voulais faire une petite pause sur les sportifs car vous avez découvert Cyril Després, le grand champion du Dakar, il y a 2 semaines. L'idée étant d'avoir des univers variés, mais avoir Laura pour cette semaine spéciale Journée de la Femme était une évidence. En effet, après Caroline Abadie, au parcours hors du commun, qui a quitté son job parisien, ouvert une chambre d'hôte près de Lyon, et après quelques années alors qu'elle avait enfin trouvé un équilibre, a été élue députée, le tout avec des jeunes jumeaux. Laura fait également partie des personnes qui vous marquent. Il y a 3 ans, alors que je venais tout juste de commencer à travailler pour une start-up lilloise, nous sommes partis en séminaire et nous avons eu la chance d'avoir son témoignage. En lançant Pourquoi pas moi, Laura a très rapidement fait partie des personnes que je rêvais d'interviewer. Le temps de trouver un créneau où elle était à Paris, c'était parti. Depuis son plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de sa vie. Le rêve de Laura, vivre de son sport. Mais quand on est joueuse de rugby sélectionnée en équipe de France et championne de France, il faut avoir un travail à côté. Laura fait donc une prépa, puis une école de commerce. Elle quitte son premier emploi pour créer son entreprise LJA Sport, où elle est conférencière et fait la promotion du sport au féminin. Aujourd'hui, Laura est sportive à haut niveau, entrepreneuse, conférencière et consultante rugby pour France Télévisions. Bienvenue dans l'univers de Laura Di Muzio. Bonjour Laura.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît ?
Alors, j'ai ramené un ballon de rugby, mais pas un ballon de rugby classique. C'est un ballon de rugby qui est estampillé avec le logo de mon entreprise et notre baseline. Parce qu'en fait, ça me représente plutôt bien. C'est à la fois ma passion, le sport que je pratique au plus haut niveau depuis plus de 15 ans, mais c'est aussi mon métier. Enfin, en tout cas, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon travail, ou l'inverse, du coup, je sais plus. Et du coup, c'est, voilà, ce ballon de rugby me représente sur le terrain et en dehors. Puis j'en ai pris un qui est plein de boue, parce que je l'ai déjà utilisé. Je trouve ça dommage d'avoir un ballon et de pas l'utiliser. Donc parfois, ça m'arrive de faire des interventions, soit avec des clients ou avec des potes, on va jouer. Et la baseline sur ce ballon, c'est marqué « Ladies are just amazing », parce que c'est la signification des 3 lettres de notre boîte qui s'appelle LJA Sport. C'est à la fois les 3 lettres des fondateurs, donc c'est Laura, Yannick et Alex. Donc Alex est ma meilleure pote avec qui on a monté la boîte, et Yannick, c'est un vieux monsieur de 51 ans qui un jour a eu envie de réaliser son rêve, à savoir monter une entreprise dans le monde du sport, et qui m'a proposé de le faire avec lui. Du coup, j'ai tendance à croire beaucoup ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit, tu sais Laura, en réalisant mes rêves, peut-être que je vais pouvoir réaliser les tiens aussi. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça et c'est génial. Donc j'aime bien ce ballon, je l'ai toujours dans mon coffre. En fait, j'ai toujours un ballon de rugby dans mon coffre et là, c'était celui-là pour le coup. Donc je l'ai ramené ici parce que je pense qu'il me représente plutôt bien.
Et justement, c'était quoi tes rêves ?
Alors mes rêves, moi j'ai toujours rêvé, alors je suis une sportive dans l'âme, je suis passionnée par ça, je fais du sport encore, mais j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là.
Des petites ?
Depuis, pas petite, parce que quand j'étais petite, comme je regardais les experts, je voulais devenir médecin légiste.
D'accord. Mais
après, je voulais pas aller en S, parce que je préférais largement la SES, l'écho, ça me plaisait beaucoup, et l'associé aussi. Mais j'ai toujours voulu travailler dans le monde du sport, parce que c'est un monde dont les valeurs m'attirent, et puis qui m'a permis, moi, de m'émanciper et devenir la femme que je suis actuellement. Mais bon, j'ai suivi un parcours classique, après avoir fait une prépa, une école de commerce, je me suis retrouvée vite à trouver du taf.
Justement, la prépa, parce que tu faisais, en fait, si on repart sur le sport, t'as commencé par du football.
Oui, c'est
quand
ça.
Quand t'étais petite.
Exactement, t'es bien renseignée.
Ouais, j'ai fait ma petite enquête. T'as commencé par le foot et finalement, le foot à l'époque, c'était quand même un truc vachement masculin. Qu'est-ce qui t'a attirée dans le foot?
Bon, on va dire que c'est un peu le fruit du hasard. Moi, j'habite un tout petit village dans le nord de la France.
Ouais, là où t'es née.
Exactement, juste à côté. Et le seul club qu'il y avait, en fait, c'est un club de foot ou de ping-pong. Enfin, de tennis de table. Et du coup, avec ma sœur, j'ai une sœur jumelle, on s'est inscrite pour être avec nos copains, en fait. Ouais. Et c'est le petit club de foot. Et j'en ai fait pendant 7 ans, entre mes 7 et mes 14 ans. Et ensuite, quand on a 14 ans, et bien, les règles veulent qu'il faut choisir. Enfin, il faut absolument aller dans un club féminin et non plus mixte. Et donc, avec ma sœur, on a passé des tests dans des clubs féminins, mais on n'a pas du tout aimé l'esprit de compète, la comparaison, tout ça. Donc, on s'est dit, bon, allez, on arrête le foot, tant pis, on fera autre chose. Et le hasard a fait, je crois pas trop au hasard, mais on va dire le hasard a fait à ce moment-là que dans le collège dans lequel on était, il y avait beaucoup d'initiations au rugby, puisque c'était un collège qui avait une section sportive pour les garçons.
C'était à Valenciennes ?
Exactement, à Valenciennes, plus belle ville du monde. Et donc du coup, on a découvert le rugby complètement par hasard à l'UNSS au collège. Et comme on se débrouillait bien avec ma sœur venant du foot et d'un sport collectif, eh bien on a continué. Et c'est comme ça qu'on est rentré en sport-études au lycée juste à côté, au lycée Watteau. Et c'est parti comme ça, alors que dans ma famille, personne ne joue au rugby. D'ailleurs, personne ne comprend les règles. Ma mère croit encore que je marque des buts, alors que non, on tire des pénalités. Mais donc voilà, c'est...
Comment ils ont accueilli ça, le fait que vous fassiez pas sport-études avec ta sœur ?
Alors, justement, si on a fait sport-études. Tu veux dire au football ?
Oui, quand vous avez dit, on aimerait faire sport-études, tes parents, ils vous ont dit, allez, super, les filles, on est avec vous, ou vous êtes sûres, sport-études, comment ils ont vécu ça ?
Moi, j'ai la chance d'avoir des parents très, très, très ouverts, ouais. Des parents qui sont géniaux. Quand, avec ma sœur, on a dit, écoutez, on a envie de faire du rugby, jamais j'ai entendu à la maison, mais les filles, le rugby, c'est un sport pour les garçons, ouais. Vous n'allez pas faire ça. Ou d'ailleurs, quand on dit qu'on voulait faire sport-études, jamais ils nous ont dit non, c'est trop compliqué. Ma mère a dit, vous voulez faire ça? Ok, on va vous acheter des crampons, et puis vous allez en faire, vous allez découvrir. Et ça a toujours été génial, et on a toujours été élevés comme ça. Ma mère a tendance à dire, vous faites ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est génial, parce que c'est aussi un apprentissage pour le reste de notre vie. Le seul deal, comme en effet, le rugby... C'est un sport qui est complètement amateur, pour lequel on ne gagne pas d'argent, même si on est au plus haut niveau actuellement en France. Chez les filles, on ne gagne pas d'argent ou très très peu. Ouais. Nos parents ont toujours dit, les filles, il faut gérer les études à côté. Donc vous pouvez aller à l'entraînement quand vous voulez.
Mais quand
vous
tu dis pas d'argent, c'est quoi? C'est quand tu es championne de France, tu gagnes 1500 euros par mois?
Ah non, rien du tout.
Non.
Il n'y a pas de salaire.
D'accord.
Il n'y a pas de salaire en fait. Il n'y a pas de contrat. Les joueuses sont amateurs. Et après, en fonction des clubs, certains clubs peuvent distribuer, on va dire, des primes. Ouais. Donc ça peut aller 50 euros par match, 150, 200. Mais à l'heure actuelle, dans le championnat, les joueuses qui gagnent le plus, elles peuvent gagner jusqu'à 400 euros par mois avec un petit contrat avec leur club. Voilà. Et puis encore à l'époque, il y a 15 ans, c'était encore pire. Mais donc voilà, le deal avec les parents, c'était « faites ce que vous voulez les filles, mais vous gérez, vous avez vos études. Après, ouais. Le reste, on ne vous embête pas. Faites ce qui vous épanouit en fait. »
Donc tu as fait une prépa HEC ?
Oui, après mon bac.
Et là, j'ai lu que tu disais, qu'en fait, au bout d'une semaine, tu as dit « mais moi, je ne vais pas réussir à gérer avec les entraînements en parallèle ».
Alors, non, je ne sais pas où tu as lu ça.
Ouais, non, c'était pas une information.
C'est pas ça l'histoire, en fait. Moi, j'ai fait une prépa sans savoir à quoi ça servait, la prépa. J'ai coché la case un peu par hasard. Et quand je suis arrivée là, c'est vrai qu'on nous a dit, écoutez, vous êtes ici pour préparer des concours, c'est très difficile, faut travailler. Et puis tous les samedis matins, vous passez des concours blancs. Et là, moi, j'ai découvert ce que je ne connaissais pas, en fait. Ouais. Et le samedi matin, je ne pouvais pas faire les concours blancs, parce que moi, un samedi sur deux, je suis partie en compétition. Et donc j'ai été voir le proviseur en me disant, écoutez, moi je suis sportive de haut niveau, désolé, mais je ne viendrai pas au concours blanc, je veux bien faire les cours, mais il y a des fois je suis obligée de m'absenter. Et du coup il m'a dit, attendez Laura, c'est pas possible, nous on n'a jamais eu de sportif de haut niveau ici, vous n'allez pas pouvoir y arriver, je vous propose de vous réorienter en BTS, pour que ça soit plus facile pour vous. Donc là ça faisait quand même deux jours que j'étais là, j'étais déjà virée, je me suis dit, peut-être mes parents ne vont pas trop apprécier. Donc je lui ai proposé de faire un deal en lui disant, laissez-moi un trimestre de mise à l'épreuve, puis si au bout du trimestre je m'en sors pas, ok, on verra, je quitterai la prépa. Donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lui montre un petit peu que j'étais capable d'être là. Et j'ai travaillé vraiment comme une dingue. Et à la fin du premier trimestre, j'étais major de promo. J'ai été le revoir. Il m'a dit, bon, ok, il n'y a plus de problème. Et après, je me suis permise de faire la sieste
c'est
en cours.
Parti.
Ouais, c'était parti. Mais la prépa, c'était les deux plus belles années de ma vie.
Ouais.
C'était génial.
C'est rare que les personnes disent ça.
Ah oui, mais c'était génial. Moi, j'ai eu l'impression d'apprendre énormément, de m'instruire, de réfléchir, de prendre de la hauteur. Et en même temps, le fait de le concilier avec le sport de haut niveau... le sport, c'était ma soupape.
Ouais.
Alors, je m'imposais un rythme de travail qui était assez énorme.
Ouais, parce que l'entraînement, ça représente quoi quand t'es rugbyman à haut niveau ?
Alors, c'est tous les soirs.
Ouais.
Généralement, c'est 19h30, 21h30, le créneau. À l'époque, moi, j'étais en équipe de France, donc j'avais des séances supplémentaires. Donc, parfois, je ne faisais pas parce que le rythme était élevé. Mais sinon, là, mon rythme actuel, c'est entraînement tous les soirs avec trois entraînements sur le terrain et deux entraînements en séance spécifique, notamment de la musculation ou de la course. Et après... Le week-end, c'est, on va dire, un week-end sur deux.
D'accord. Ouais, un gros rythme.
Ouais, ça, c'est costaud.
Ouais, en plus de la prépa, ouais, c'est gros rythme.
C'est costaud.
Ouais.
La prépa, ou même pour les filles qui travaillent, ouais. ça reste un rythme, dans tous les cas, qui est assez
hyper
costaud.
Hyper contraignant, ouais.
Exactement, dans le sens où ça rajoute une vie à toutes celles qu'on a déjà. Quoi.
Ouais. Et t'arrives à concilier, aujourd'hui encore, t'as ce rythme-là, maintenant t'as ta boîte, mais comment t'arrives à concilier avec tes amis, vous arrivez à vous voir?
Après, c'est une question d'organisation. Ouais. On est tous à sa façon un peu sportive de niveau, de toute façon. Alors moi, j'ai la vie sportive, on a tous sa vie privée, on a sa vie professionnelle. Ouais. Et faut jongler avec ces différentes vies. Et moi, j'aime bien me dire que j'essaye d'allouer du temps à ce qui m'anime le plus.
Ouais.
Et j'ai la chance pour mes amis les plus proches en dehors du monde du rugby. Ils sont conscients du fait aussi que c'est ce que je suis. En fait, je suis sportive de niveau, que ça ne dure qu'un temps. Que d'ailleurs, je suis de plus en plus vieille et que je serai pas tout le temps sportive de niveau.
Sachant que tu as 30 ans dans quelques semaines.
Oh, mon Dieu, non, ouais. N'en parle pas. Psychologiquement, c'est dur parce que j'ai rien contre l'âge avancé. Peut-être de nos auditeurs, mais c'est surtout que physiquement, c'est de plus en plus difficile quand on fait du sport de haut niveau. Mais oui, après, c'est une organisation. Mais en fait, j'ai la chance que depuis des années, le sport m'apprenne la valeur du temps. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on nous explique qu'une minute, c'est une minute et qu'on peut gagner ou perdre un match. Et qu'en fait, il faut être à fond sur toutes les minutes, sur toutes les secondes, toutes les actions de jeu. Dans la vie, j'essaye de me dire à peu près la même chose. Quand je vois ma famille ou alors des amis que j'ai moins l'habitude de voir à cause de mon quotidien, j'essaie d'en profiter au maximum. En fait.
Ouais. Vous avez fait avec... Alors, je ne sais pas, justement, je vais te poser la question pour le concept. Vous avez l'équipe donc Putain de Nana et vous avez fait une espèce de série TV. Et justement, Alex, dont ta coéquipière, disait... il restait une minute de temps, mais j'avais l'impression qu'il y avait eu une seconde et que le temps passait si vite. Dans quel contexte vous avez créé cette série TV des Putain de Nana?
Alors, en fait, on a été sollicité. Ce n'est pas nous qui avons choisi de la créer. C'est... France TV Slash,
ouais.
Donc une branche de France TV qui cherchait à faire un reportage à la base sur les sports, on va dire, à connotation plutôt masculine et qui étaient joués par des femmes. Donc ils voulaient faire un reportage sur le rugby pour traiter de la question de la féminisation, enfin de la féminité dans ce sport. Et quand ils ont débarqué dans notre équipe, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait bien d'autres sujets à traiter que juste cette espèce de gros cliché de la place d'une femme dans un sport, on va dire, à connotation masculine. Et du coup, ils nous ont proposé de tourner la web-série en plusieurs épisodes et d'essayer de traiter la façon dont surtout nous, on vivait en tant qu'équipe, en tant que collectif, comment on gérait les hauts, les bas, quelle était notre histoire. C'est vrai que... Alors, on s'appelle les Putains de Nana, ça nous vient de notre coach, parce qu'il y a 10 ans, il a repris notre équipe et on était en difficulté, on était en deuxième division, on n'avait pas d'effectifs, on était vraiment en galère. Puis un jour, avant un match, il nous a dit « Mais les filles, vous savez ce que vous êtes ?» Nous, on savait pas, donc on disait rien. Ils disaient, mais vous êtes des putains de nanas. Vous êtes des putains de nanas. Tous les soirs, vous êtes à l'entraînement, vous vous entraînez, vous investissez comme des dingues pour jouer au rugby. Vous êtes des putains de nanas. Donc, vous êtes des putains de nanas. Maintenant, il va falloir que tout le monde comprenne ce que c'est que d'en être une. Il va falloir que tout le monde le voit sur le terrain. Et ce jour-là, en fait, il nous a dit tellement de fois qu'on était des putains de nanas qu'on s'est dit que c'était ça le surnom qu'on voulait avoir avec l'équipe. Et ça fait plus de 10 ans. Moi, j'ai vécu ce moment avec ce coach qui s'appelle Damien. Et donc, on essaye maintenant de transmettre un peu cet état d'esprit putain de nana aux nouvelles, aux joueuses, aux recrues. Et donc, quand les journalistes sont venus, ils ont découvert ça. Au début, ça les a un petit peu interpellés. Et puis après, ils se sont dit que ça correspondait bien au nom qu'ils voulaient donner à la série. Parce qu'en fait, putain de nana, c'est plus un état d'esprit du quotidien, quoi. Donc ouais. Voilà comment est venue cette petite web-série qui est géniale, parce que nous, ça nous fait un super souvenir.
Je mettrai le lien sur le blog. Enfin, moi, j'avais un moment où j'ai eu les larmes aux yeux, notamment quand il y avait l'histoire d'Alice. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que finalement, c'est cette année-là où vous avez été championne de France de rugby. C'était une année hyper intense pour vous.
Alors, c'est vrai que cette année-là, donc, c'est la saison 2015-2016. Alors, c'est un contexte pour nous qui est très favorable au départ parce que pendant des années, on a été vraiment au plus haut niveau, toujours en demi-finale ou en finale du championnat, sans jamais réussir à gagner la finale. Et donc, en 2015, on perd la finale encore une fois et on se dit que pour l'année 2016, il faut qu'on gagne, quoi. C'est notre année, c'est la suite logique des choses. Et la saison commence et malheureusement, sur le premier match de la saison, on a une de nos coéquipières, Alice, qui se blesse très gravement puisqu'elle se fracture la cervicale C4. Donc tétraplégique et opération, et on ne savait pas si elle allait pouvoir récupérer ou non, ça dépendait de beaucoup de paramètres. Et donc pour nous ça a commencé de la pire des manières parce que jamais on pensait qu'on allait un jour devoir vivre en fait une épreuve comme ça. Ça nous paraissait impossible d'être confronté à ce genre de blessure. Et donc le soir de la blessure, quand nous on nous l'a annoncé avec les filles, on savait pas trop quoi faire. On s'est juste dit, écoutez, on se retrouve demain, on retourne au Clubhouse, on s'entraîne pas et on parle entre nous. On a discuté, il y a des joueuses qui ont expliqué qu'elles étaient très choquées, d'autres qu'elles ne voulaient pas reprendre le rugby.
Ouais, parce que finalement, ça peut te, ouais, voilà, ça peut te bloquer. Ouais.
Elles se sentaient plus capables. Et donc, ce soir-là, on s'est dit, bah, OK, on ne joue plus, on déclare forfait pour la saison, parce qu'on ne se sent pas capable de faire la saison, sachant que notre pote, elle est entre la vie et la mort, ouais. Et qu'on ne sait surtout pas si elle va récupérer. Et ce qui s'est passé ce jour-là, ça a été magnifique, et c'est un moment unique que nous, on a vécu, je pense qu'on ne revivra plus. C'est qu'on a une joueuse qui s'est levée dans l'assemblée, dans le clubhouse, qui a arrêté de pleurer, qui nous a regardés, qui nous a dit « Non mais les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ?» On est en train de se demander si nous, est-ce qu'on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais si nous, on se pose déjà cette question, qu'est-ce qu'elle va se dire Alice, elle, quand il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir un jour remarcher. Et donc cette fille, elle s'appelle Emeline, ce jour-là, elle nous a dit « Mais on va se promettre que personne ne va déclarer forfait et qu'on va reprendre le championnat, qu'on va gagner et qu'à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier de championne. »
Donc challenge pour Alice, ouais, de pouvoir marcher et d'être debout et puis pour vous de ramener le bouclier.
C'est ça, la saison, elle est partie comme ça. En fait, c'est vrai qu'on s'est dit « Punaise, on ne peut pas abandonner, quoi. On va pas lâcher alors qu'on n'a encore même pas essayé.
Ouais. »
Et donc la saison, on l'a vécue. Alors évidemment, il y avait nous, notre combat, il fallait qu'on joue des matchs, qu'on gagne des matchs avec la difficulté que c'était... Bah, d'encaisser le choc qu'on avait vécu. Et en parallèle, Alice, elle aussi, qui devait mener sa rééducation. Alors, on a eu de la chance parce que dans sa blessure, sa moelle épinière était intacte et pas sectionnée. Donc, elle a pu récupérer au fur et à mesure. Et alors, au début, elle a récupéré des petites capacités jusqu'à avoir la possibilité de remarcher. Et donc, le jour où on a joué la finale, nous, on a rempli le contrat, on a gagné la finale et elle était là. Et donc, à la fin, on l'a mise debout sur le bouclier. Et c'est la seule fois où on a été championne de France. Mais en fait, c'est la plus belle année. Et en fait, on s'en fiche d'avoir été championne de France ou pas, mais en fait, ce jour-là, cette année-là, elle nous a permis de comprendre en fait ce que c'était que de vivre une aventure en équipe. Quoi.
Ouais. Tu dis souvent que en fait, ce qui compte, c'est pas forcément de gagner, c'est l'aventure humaine que vous vivez tous ensemble.
Ah oui, moi j'en suis persuadée. Enfin, j'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je partage pas au quotidien. En fait, souvent c'est ce que je dis quand je suis en conférence. Ce que je dis, c'est que avant de vouloir réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. Et la vivre, c'est quoi ? En fait, c'est au quotidien, s'investir, s'engager, partager. Quand on aura fait ça, quand on y met les ingrédients, évidemment, on progresse, on monte en compétences. Puis il y a des fois, on gagne, d'autres fois, on perd. Mais quand on vit ça au quotidien, le résultat, c'est pas la priorité, en fait. Parce que si on se concentre que sur son objectif, que sur le fait d'être premier, que sur le fait d'être champion, quand on n'y arrive pas, si on ne se construit que sur ça, en fait, l'aventure, elle explose, le groupe explose. Donc, nous, avec Alex, on essaye de demander à nos joueuses de se concentrer non pas que sur l'objectif sportif, mais aussi sur ce qu'on a envie de créer au quotidien. Nous, on appelle ça être des suppléments d'âme.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait pour être un supplément d'âme au quotidien, dans l'aventure ? Qu'est-ce qu'ensemble, on construit pour pouvoir amener le groupe, en fait ?
C'est un truc dont on a parlé deux fois à date dans le podcast. Une fois avec Olivier Garibal, qui, lui, était banquier. Il est devenu producteur d'huile d'olive, mais au milieu de tout ça, il fait des trails. Et il a fait notamment le tour du Mont Blanc en 33 heures. Et il disait, en fait, moi, je cours pour moi et je ne cours pas contre les autres. Et ce qui compte, c'est... Enfin, lui, ce n'est pas son ambition, ce n'est pas son métier. C'est juste pour le plaisir et le challenge. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer Cyril Després, qui a gagné 5 fois le Dakar, sachant que le record du monde, c'est 6. Enfin, il a fait 20 Dakar dans sa vie à moto, enfin 16 à moto et le reste en voiture, donc un challenge de dingue. Et lui, il disait aussi, c'est que ce qui a fait qu'il a gagné, il y a en 40 ans de Dakar, il y a que 14 personnes qui ont gagné le Dakar, ce qui est rien du tout. Et il disait, en fait, moi, j'ai réussi à gagner parce que je voulais gagner pour moi et je voulais pas gagner pour l'argent ni pour la notoriété. C'était pour des vraies bonnes raisons, finalement.
Oui, c'est vrai qu'en fait, je pense que si on se construit en se demandant d'abord ce qu'on est capable de faire et pour soi et pour les autres, c'est vrai que dans le monde du rugby, de toute façon, on n'est rien sans ses coéquipières ou ses coéquipiers. Enfin, on ne peut qu'avancer parce qu'au final, gagner ou perdre le match, c'est pas ça qui compte. Moi, c'est souvent ce que je dis aux filles, c'est pourquoi on est là. Pourquoi tu viens t'entraîner tous les soirs ? Qu'est-ce qui fait que le vendredi soir, tu pourrais être avec tes potes en train de boire un coup, t'es sur le terrain, dans la boue, sous la pluie, jusqu'à 22h ? En fait, je pense qu'on essaye tous de se créer ces espèces de moments d'émotion qu'on n'a pas dans le quotidien.
Ouais.
Et c'est aussi pour ça que je pense à Villeneuve-d'Ascq qu'on a eu la chance de développer un peu peut-être cet état d'esprit autour du putain nana qui fait qu'avant tout, on vient pour les autres. On vient pas que pour sa paire, on vient pas que pour le résultat. On vient parce qu'entre nous, on est bien. Et quand on arrive à créer ça, et si on arrive à créer ça, en fait, on se pose même plus la question de savoir si c'est contraignant, si ça l'est pas. On sait pourquoi. C'est comme le matin, quand on se lève, si on sait pourquoi on se lève, on se pose pas la question de savoir si on travaille ou pas. Quoi.
Ouais. Oui, quand t'es bien. Mais d'ailleurs, c'est, enfin, je parlais d'un livre de Thomas Samut qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Thomas Samut, c'est le premier coach mental dans l'histoire française du sport et qui entraîne tous les grands nageurs du Cercle des nageurs à Marseille. Et j'ai lu un livre de lui cet été où j'étais en plein burn-out, donc pas au sommet de ma forme. Et il expliquait justement ça, qu'en fait, aujourd'hui, on était heureux dans l'accomplissement de l'objectif, mais pas dans la façon d'atteindre l'objectif. Et j'ai quand même eu un éclair. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, là, tu vois, je me suis dit, je lance le podcast, ça marche super, mais en fait, là, je suis hyper heureuse d'être avec toi, et puis si personne l'écoute, bah, tant pis, mais si ça peut faire du bien aux autres, tant mieux.
Enfin, ouais, c'est exactement ça, et puis je pense qu'au-delà, en effet, du processus final, c'est la préparation, c'est toute l'énergie qu'on peut y mettre, ça, c'est vachement enivrant, en fait. Ouais. Évidemment, après, on prend toujours un risque que ça fonctionne pas, mais, enfin, à la rigueur, c'est pas grave. Et... moi, j'ai tendance à croire aussi que le fait de se planter, le fait de se tromper, alors c'est très cliché, mais en fait, c'est bénéfique. Enfin, en tout cas, le sport nous apprend ça. Le sport, il t'apprend qu'en permanence, en fait, tout n'est que succession de petits échecs et de petites réussites. Tous les soirs à l'entraînement, sur 2 heures, moi, je suis pas à 100% à chaque fois en réussite. C'est impossible. Sur tous les exercices, parfois, je vais me tromper, je vais m'améliorer, on va me donner des conseils, je vais perfectionner mon geste. Ça n'est que ça. Le sport, ça n'est que de l'échec et de la réussite. Mais la question, c'est surtout comment, en permanence, je cherche à m'améliorer, je cherche à avancer, je cherche à rebondir.
Ça, ouais, ça n'est que ça. Ouais, retenir de ces erreurs passées. Il y a une expression que je trouvais géniale dont tu parlais, c'est poubelle. C'est quand il y a un truc qui n'est pas bien, c'est pas grave, on met à la poubelle. Et c'est...
Oui, c'est vrai que nous, dans l'équipe, on a une Bible. En fait, la Bible, c'est le projet de jeu, c'est comment on va jouer tous ensemble. Il y a plein de codes. Et dans cette Bible, les coachs ont mis un code, c'est le code poubelle. C'est l'idée de se dire que, en fait, sur le terrain, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais sur le terrain, mais dans la vie, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix. Bon choix ou mauvais choix. Et la règle avec les choix, chez nous, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble. Parce qu'en fait, en se trompant ensemble, on peut transformer un mauvais choix en le meilleur choix possible. Donc, quand il y a une fille qui se trompe sur le terrain, ça ne sert à rien de la pourrir. De toute façon, elle s'est trompée, c'est fait. Enfin, on ne reviendra pas sur son erreur. On lui met une tape dans le dos et on lui dit poubelle. Et le poubelle, en fait, c'est un déclic mental. C'est de dire, OK, là, je me suis plantée, je rebascule dans le positif et je continue. Donc, ça ne sert à rien quand on s'est trompé, de toute façon, de se mettre à pleurnicher, baisser la tête et puis attendre. Quoi. Non, l'idée, c'est tu relèves la tronche, tu continues à avancer et tu joues. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu t'es trompé que le match s'arrête. Personne ne t'attend. Mais c'est pareil dans la vie. Et toi, tu te plantes, mais en fait, il n'y a personne qui t'attend. La vie, elle continue, la vie, elle fait son chemin. Et toi, est-ce que tu as envie de la suivre? Donc, c'est ça. Et l'idée, c'est juste... tu t'es trompé, c'est pas grave, poubelle, t'avances et nous, on est là avec toi. Nous, on est au soutien et on va corriger ton erreur, on va transformer ton mauvais choix en le meilleur choix possible. Évidemment, si t'avais fait un bon choix, on aurait peut-être marqué tout de suite un essai. Voilà, t'as pas fait le bon choix, c'est pas grave, on va prendre d'autres décisions et on va mettre plus de temps, mais on va se rapprocher quand même de la ligne d'essai. Ça n'est que ça. Et le poubelle, ça marche sur le terrain, mais ça peut marcher en dehors.
Bien sûr. Moi, je t'avais entendu en conférence dans une entreprise où j'ai travaillé. Et je me suis dit, mais je l'avais noté en me disant, ça faisait 4 jours que j'avais commencé dans la boîte, mais je m'étais dit, mais ça, il faut que je le garde avec mon équipe, parce qu'en effet, on fait tous des conneries, mais enfin, et manager, pas manager, enfin, ça arrive et on se dit, bah ouais, en fait, c'est pas grave, enfin, on avance, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense que de toute façon, on ne fait rien de bien quand on est sous pression, ou en tout cas, quand on a peur de se tromper. Moi, je le vis dans le monde de l'entreprise, tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, en disant, mais de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. De toute façon, c'est ce qu'on se dit en permanence sur le terrain. À un moment donné, on est tous et toutes acteurs et actrices de nos projets. Nous, on est actrices de notre match. Les coachs, ils sont sur le côté, ils regardent pas, enfin, ils font que regarder le match, ils peuvent pas rentrer. Même s'ils ont les solutions, ils peuvent pas les mettre en place. Donc, c'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. Ils nous disent tout le temps, les filles, c'est normal. Tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Et ce qui est génial quand on est sportif de haut niveau, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux maîtriser, en fait.
Ouais.
Je ne maîtrise pas l'arbitre, je ne maîtrise pas la météo, je ne maîtrise pas les adversaires. Par contre, moi, je maîtrise ma préparation, je maîtrise les heures auxquelles je vais à l'entraînement, je maîtrise l'investissement que je peux y mettre, et ça va me faire progresser. Si j'y ai mis après toutes les ingrédients, l'adversaire est plus fort, il est plus fort. Dans tous les cas, j'arriverai pas à le battre.
Ouais.
Et c'est ce qu'on dit chez Putain Nana, on dit si on perd, on perd les armes à la main. C'est-à-dire, on perd en ayant combattu.
Ouais.
Ouais, évidemment, il vaut mieux gagner. J'ai envie de gagner tous les matchs. Et parfois, on peut y mettre tous les ingrédients. En face, on va tomber sur plus fort.
Ouais.
Et puis, Le sport, c'est aussi une grosse leçon d'humilité.
Ouais, la tête est haute, fière de toi. Et de toute façon, en effet, personne ne naît rugbyman. Ça s'apprend. Enfin,
bien sûr, mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Cette idée autour de l'échec et de la réussite, elle est compliquée parce que c'est vrai qu'on a tendance dans la société aussi de beaucoup mettre en avant ce qu'on réussit et pas forcément ce qu'on rate. Je ne considère pas forcément qu'il y a de raté. Je pense qu'on est en permanence en apprentissage, en fait.
Après, je suis complètement d'accord avec toi. Après, l'éducation française nous conditionne vachement sur travailler là où t'es pas bon et pas travailler là où t'es bon. Ce qui est d'ailleurs ce qu'expliquait Thomas Samut aussi. Il disait les entraînements aux US, on bosse, ok, t'es bon dans ce truc-là, on va creuser et ça va te permettre d'exploser. Tandis qu'en France, on va dire t'es pas bon là-dessus, on va bosser, ce qui finalement te rappelle au quotidien que t'es pas bon dans un truc, mais sans travailler sur quoi t'es bon, en fait.
Ouais, moi je suis persuadée que chacun à notre façon. Enfin, de toute façon, il y a des potentiels partout. Mm. Tout le monde a en soi son petit truc.
Son supplément d'âme.
Exactement, son supplément d'âme. Et il faut en être conscient. Mm. Et après, il faut être capable aussi de le développer chez les autres. Souvent, moi, c'est la façon dont je vois mon rôle de capitaine dans l'équipe. C'est vrai que moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis capitaine de l'équipe à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, au bout de 3-4 ans, on s'est rendu compte, on est deux capitaines avec Alex.
C'est courant d'ailleurs, ça, d'être deux capitaines. Je ne suis pas très, très branchée sport, donc je ne suis pas très au courant du rugby.
Forcément, il y a toujours différents leaders dans les groupes de sport, mais nous, on est vraiment deux capitaines annoncés parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien. Ça nous permet de nous partager le rôle, ça nous permet d'être aussi de travailler ensemble, et puis ça permet aussi aux filles de pouvoir s'adresser à l'une ou à l'autre. Donc nous, on fonctionne très bien comme ça avec deux capitaines. Mais c'est vrai qu'après 3 ou 4 ans de capitanat partagé, bah, à un moment donné, Alex est venu me voir en me disant « Mais Laura, tu sais, toi et moi, on prend trop de place dans cette équipe.
Ouais. »
Je lui ai dit « Comment ça, je prends trop de place ?»
Non, pas du tout.
Exactement. Enfin, j'ai dit, nous, on fait tout pour cette équipe. On est là avant, on est là après, on est tout le temps là pour les filles, on organise tout, toutes les soirées, tout ce que tu veux. Enfin, non, mais en fait, je fais tout pour cette équipe. Elle me dit, bah ouais, c'est ça le problème. Tu fais tout et personne peut rien faire. Elle dit, c'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça qu'on va réussir à emmener les gens. Tout le monde attend tout de nous. Du coup, on a tellement donné l'habitude qu'on allait tout faire, tout maîtriser, parce qu'on. Mais ça part d'un sentiment super, super bienveillant. Mais malgré tout, en fait, ça permet pas aux autres de s'exprimer. Alors moi, ça m'a mis une petite claque quand même, parce que je pensais que je faisais les bonnes choses en essayant d'être exemplaire à 100%.
Ouais.
Et donc après ça, on a pris un peu de recul avec Alex et on s'est demandé comment, en fait, en tant que capitaine, on pouvait aussi créer le leadership chez les autres. Mmh. Comment on pouvait les amener à, elles aussi, prendre l'aventure en main, on va dire découvrir leur supplément d'âme, et puis mener des petites actions, et puis être là pour donner au groupe. Et c'est vrai que depuis qu'on fait ça, on se rend compte que, un, nous, ça nous libère et du temps et de l'énergie, et surtout, en fait, les autres se révèlent. Parce que parfois, en essayant, quand tu les pousses à essayer, à organiser, à prendre un entraînement en main, ou à faire une action pour le groupe, ils découvrent quelque chose qui est peut-être en eux et qui ne soupçonnaient pas. Ouais. Tu vois.
Et peut-être qu'ils ne font pas bien tout de suite, mais c'est pas grave, ils apprennent. Ouais.
Exactement. Et c'est vrai qu'on pousse énormément, nous, les joueuses, à prendre des initiatives, à la fois pour le groupe, mais aussi pour elles, tu vois, pour se révéler. Ouais.
Et comment vous avez... Ou est-ce que vous vous êtes fait aider par un coach pour justement mouver là-dessus, arriver à changer de comportement, vous, par rapport aux filles?
Non, on ne s'est pas du tout fait aider par un coach, mais c'est plus, en fait, le fruit de discussions et d'échanges entre nous, parce que c'est vrai que nous, cette équipe, avec Alex, on y est depuis très longtemps, et ça nous tient extrêmement à cœur. Enfin, je veux dire, c'est un travail, c'est pas notre travail, mais c'est comme si ça l'était. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas, où on n'en discute pas, où on n'essaie pas de trouver des solutions. Et à un moment donné, on s'est dit, punaise, on a trop la main mise, quoi. Comment on pourrait libérer ça? Parce que de toute façon, ça ne pourra pas perdurer comme ça. Et donc, tout doucement, on s'est dit, par exemple, c'est vrai que la tradition chez nous, si on a une grosse soirée par mois, on s'est dit, il faut qu'on arrête de toujours tout organiser, nous. Donc, on a fait des tirages au sort. On a mis toutes les filles dans tous les noms des filles dans un chapeau, tous les mois de l'année dans un autre, et on a créé des teams de 4 ou 5 pour que elles se responsabilisent ensemble, à 4-5, elles organisent chacun une soirée sur leur thème. Ce qui fait qu'en fait, et à la fois, beaucoup ont dû s'engager, prendre des responsabilités, mais surtout, ça a été beaucoup plus intéressant que juste si on était deux à le faire. Un jour, on a une joueuse, elle a décidé de faire une soirée sur le thème méditation. Moi, jamais j'aurais pensé à le faire. Et en fait, c'était génial, parce qu'on a vécu un moment complètement décalé. Et en fait, je pense qu'on gagne beaucoup plus à essayer de libérer les autres, quoi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on réalise son rêve, on permet aussi peut-être à d'autres d'en réaliser. Là, c'est la même chose, quoi. Si on n'accapare pas tout autour de soi, en fait, on va et se libérer soi-même et libérer les autres.
Clairement. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenue capitaine? Comment ça se passe? On vient de voir un jour en disant ça te dirait d'être capitaine?
Bah, en fait, ça s'est fait presque comme ça. Quand le nouvel entraîneur est arrivé, ça faisait 2 ans qu'on était, que moi j'étais dans l'équipe en senior. Et on avait une saison difficile, on avait été rétrogradé. Donc le staff est parti et lui, il est revenu à la tête de l'équipe. Et c'était un monsieur, ce fameux Damien, qui nous appelait les putains nana, qui avait de fortes convictions et qui pensait qu'avant tout, la réussite du groupe passait par notre engagement et par le fait que, quel que soit notre niveau, la meilleure ou la moins bonne, on ne jouerait que si on s'entraînait tous les jours. Et dès le premier entraînement où il est arrivé, il nous a tout assis par terre. Il nous a expliqué les règles, il nous a expliqué la Bible. Et il a dit,
la Bible, voilà, c'est un truc qui existe dans toutes les équipes de rugby.
Chaque équipe, tout le monde l'appelle pas la Bible, ouais, mais chaque équipe a son projet de jeu.
D'accord.
Comme chaque entreprise a son projet d'entreprise.
Okay.
Et moi, j'étais assis par terre, il m'a dit, Laura, toi, tu seras capitaine. Et il m'avait pas prévenu avant. Moi, j'avais 20 ans. Je me sentais pas forcément légitime parce qu'en équipe, il y avait des filles plus expérimentées. Mais je pense qu'il avait vu en moi quelqu'un qui correspondait à ses valeurs, en fait. Dans le sens où j'étais une petite jeune qui était en équipe de France, qui s'entraînait beaucoup, qui était toujours là, enfin, qui s'investissait à fond. Et je pense qu'il s'est dit que j'allais pouvoir porter, en fait, les messages dont lui pensait être nécessaire pour réussir. Mais très vite, dans la première année, Alex, qui était déjà là,
et elle était déjà capitaine ?
Non, elle n'était pas capitaine. Elle avait un leadership assez naturel, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul capitaine.
D'accord.
Mais elle venait m'aider, en fait. Elle se rendait compte que je n'osais pas trop, que j'étais un peu timide. Elle me disait, tu sais, là, tu pourrais faire peut-être telle action, ou viens, on va organiser ça. Elle m'accompagnait discrètement dans l'ombre. Et au fur et à mesure, en fait, aux yeux des filles, on est devenus 2 capitaines, parce qu'ils voyaient bien le travail qu'elle menait, elle. Et donc, les coachs ont trouvé ça génial. Et donc, l'année d'après, ils ont perpétué, puis on a toujours été ensuite 2 capitaines.
Et ta sœur, elle jouait avec vous aussi dans l'équipe ?
Ouais, j'ai une sœur jumelle.
Ouais.
On a toujours fait du sport ensemble. On n'a pas fait les mêmes études, mais on fait du sport ensemble. On a fait du foot ensemble, du karaté, et puis on a fait du rugby, forcément. Ouais. C'est génial parce qu'on a vécu l'équipe de France aussi ensemble. Donc
Comment vous êtes arrivée d'ailleurs dans l'équipe de rugby ? On part après de petite parenthèse sur ta sœur.
Tu veux dire
On finit sur ta sœur et puis après on parlera de l'équipe de France en rugby.
D'accord. Donc du coup, c'est vrai qu'elle joue avec nous. Bah, là, elle a arrêté parce qu'elle est ostéopathe. Donc
d'accord.
Elle a quand même un emploi du temps assez chargé. Donc là, depuis l'année dernière, elle a arrêté. Mais sinon, on a vécu 12 ans de haut niveau toutes les deux.
Ouais.
Bon, parfois on se crêpe le chignon, mais...
Justement, pour elle, comment elle l'a vécu que tu deviennes capitaine? Alors, je sais, enfin...
Alors, il faut savoir que ma sœur est une personne incontrôlable dans un groupe. C'est un énorme bout en train, c'est quelqu'un de très extravagant, très extraverti. Donc, à la rigueur, que je sois capitaine, c'était presque le mieux parce que je pouvais à peu près la gérer. Mais c'est vrai que parfois, elle me chambrait un peu ou elle me provoquait un peu en sachant que moi, je pouvais pas avoir le même statut qu'elle et que je pouvais pas toujours me permettre de déconner parce qu'il fallait que je puisse recadrer le groupe si besoin. Mais ça s'est de manière générale très très bien passé, quoi. Après, c'est ce statut de capitaine ou non capitaine, nous on passe largement dessus, quoi.
Même pour toi, pour entre guillemets la coacher, sachant que c'était ta sœur que tu connais quand même comme toi-même.
Ouais, non, mais ça se passait très bien. Et puis en plus, c'est vrai que c'est en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui est très joyeux, qui met une énorme ambiance dans l'équipe. Donc ça, c'était super plaisant. Le petit-fils, c'était de la cadrer sur le terrain parce qu'elle est très impulsive. Et puis, si elle n'a pas envie de faire, elle ne fait pas. Donc, c'était plus ça. Ma mission, c'était de la tirer sur le terrain, quoi. Mais ça s'est toujours très bien passé. On a vécu des bons moments tous les deux.
Et donc, du coup, assez tôt, vous avez été intégré à l'équipe de France ?
Alors oui, en fait, l'équipe de France, ça fonctionne sous forme de sélection. Mais à l'époque, nous, il y a 15 ans, quand on a commencé, il y avait quand même peu de joueuses de rugby. Et nous, comme on venait du foot et qu'on avait un bon niveau en foot, on savait très bien jouer au ballon au pied, et donc c'était assez rare dans le monde du rugby féminin. Donc ça nous a permis quand même très très vite de nous démarquer, et donc on a été faire des stages avec l'équipe de France de moins de 18, moins de 20 ans, puis après l'équipe de France senior, mais tout fonctionne sous forme de sélection, et pour nous ça a été génial aussi, parce que jamais on pensait, en ayant si peu de pratique du rugby, atteindre le plus haut niveau, même si maintenant c'est complètement différent. On pourrait plus maintenant... en ayant 15-16 ans, très peu d'années de rugby, débarquer et puis être au plus haut niveau, parce qu'il y a beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de jeunes filles qui sont formées, donc la bataille serait plus rude. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, j'ai envie de dire, presque dans un bon timing, où nous, on avait un bon niveau et qu'il y avait peu de joueuses, et donc on s'est fait repérer, et c'est comme ça qu'on a vécu 7 ou 8 années en équipe de France, et qu'on a eu le coq sur le cœur en chantant la Marseillaise. C'était vraiment magique.
Magique,
ouais. C'était magique.
Et est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, tu t'es dit, en fait, parce que du coup, tu avais un job de marketeuse. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, j'en ai marre, j'en peux plus de cette vie où j'arrête pas, mais comment ça s'est passé toutes ces années où tu bossais avant de créer ta boîte?
Alors, pour resituer dans le parcours, donc moi, j'ai eu mon bac, après, j'ai fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école de commerce, et après, en étant diplômée en école de commerce, je suis sortie, et puis j'ai commencé à bosser dans une start-up, où j'ai bossé pendant 2 ans au service marketing, et ensuite j'ai quitté pour créer ma boîte. Mais en fait, tout au long du parcours, évidemment, il y a des moments où on en a marre parce que bah, le rugby, c'est un sport qui est déjà physiquement quand même très, très impliquant ouais. parce que c'est un sport de contact, c'est un sport où on prend des coups. Donc,
Surtout encore plus quand t'es une femme.
Ouais, voilà, quand on se réveille le lundi matin pour aller soit en cours, soit au bureau, on a des courbatures partout, on a mal au corps, puis on est fatigué, puis c'est des rythmes quand même qui demandent d'enchaîner. Voilà, je pars pour le bureau, il est 8h, je prends ma voiture, je fais ma journée. Parfois, le midi, je vais faire une séance de muscu, je quitte à 18h, j'arrive à 19h à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre, il est 22, puis à 22, je commence seulement. Bon, si on fait le choix de ne pas se laver pour gagner du temps, on peut, mais au bout de quelques semaines, ça commence à être quand même assez nauséabond. Mais il faut voilà, réenchaîner, se préparer, préparer son sac, faire à manger, puis repartir pour le lendemain. Quoi. Donc, c'est des rythmes qui sont extrêmement soutenus. Mais évidemment, parfois, on a envie de, parfois, on n'a pas envie d'aller mettre les pieds dans la boue, il fait froid. Et moi, quand c'est comme
surtout
ça,
dans le Nord.
Ouais, surtout dans le Nord, l'enfer. Et quand c'est comme ça, moi, je me sers en fait des autres. J'envoie un message sur le WhatsApp en me disant, oh, les filles, j'ai pas envie. Et puis, évidemment, tout le monde dit, ah, c'est bon, Laura, tu te tais, tu bouges. Et donc, en fait, c'est vrai que. Être capable aussi de se servir des autres et puis d'aller chercher l'énergie chez les autres et puis d'être en permanence en transfert d'énergie, ça permet aussi de se rebooster quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que tout seul, bah, on a tendance parfois à pas réussir à prendre de la hauteur, à avoir le nez dans le guidon et puis finalement à s'éteindre tout doucement quoi. Alors que si on s'ouvre un peu, il y a plein d'énergie partout autour de nous et on peut s'en servir, on peut s'en nourrir, tout comme on peut aussi être une source d'énergie pour d'autres quoi.
Clairement. C'est, c'est savoir exploiter le pouvoir des autres quand on en a besoin. Et à partir de quand tu t'es dit « je vais monter ma boîte » ?
Alors, c'est vrai qu'après avoir eu mon bac, moi j'ai toujours voulu bosser dans le monde du sport. C'est un monde qui me passionne, j'adore ça. Et avec le club, j'ai essayé toujours de monter des actions avec Alex. Donc, on était certes capitaine dans l'équipe, mais comme
vous
on
êtes
est...
rencontrés à l'école
au rugby, au rugby. Ouais. Et on est surtout meilleurs potes et on a toujours voulu essayer de faire un peu bouger les choses parce qu'on trouvait ça un peu injuste en fait quand on jouait des matchs alors qu'on est au plus haut niveau, il y avait 30 personnes dans les tribunes, ça nous agaçait un peu. Donc on a fait des actions, on a organisé des tournois, on a fait des initiations avec des personnes handicapées, avec des enfants. On essayait toujours de faire plein d'actions et on se disait punaise c'est génial si ça pouvait être notre métier, ce serait fou. Mais jamais on a osé créer une boîte toutes les deux et puis après on a fait notre parcours étudiant séparément. Et en fait, quand moi, j'ai travaillé pendant ma première année de boulot dans ma start-up, en fait, j'ai été convoquée par l'équipe de France pour aller jouer le tournoi des Six Nations, comme je le faisais les années précédentes. Et quand j'ai demandé pour avoir 2 semaines de congé sans solde, parce que je venais d'arriver dans la boîte, la chef de l'entreprise m'a dit que c'était pas possible. Non pas qu'elle voulait pas, mais d'un point de vue organisation, c'était trop compliqué. Je pouvais pas partir 15 jours. Ils venaient de me recruter, ils avaient besoin de moi. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière en équipe de France, simplement parce que j'étais plus dispo pour le boulot. Et moi, j'ai pas osé quitter mon job à ce moment-là en me disant, c'est pas grave, je démissionne, je vais jouer au rugby, alors que j'avais besoin d'argent.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que Yannick, qui travaillait dans cette boîte, lui, au service commercial, est venu me voir en me disant, mais attends, Laura, je savais pas, c'est quand même fou, tu joues pour l'équipe de France et tu peux pas y aller parce que t'es obligé de travailler. Et il dit, mais attends. Et il m'a dit comme ça, viens, toi et moi, on crée une boîte. On crée une boîte pour faire bouger les lignes dans le sport féminin. Bon, là, au début, je l'ai pris un peu pour un fou parce que moi, ce monsieur, je le connaissais juste de vue. Je le croisais tous les matins en service, dans le service, mais c'était tout. Quoi. C'était pas un ami, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Et donc, au début, j'ai dit, bon,
il est mignon.
Oui, c'est ça, si tu veux. Et puis, c'est tout, il va abandonner. Et il a pas lâché parce qu'il est revenu me voir en me disant, viens, on va déjeuner, on va en discuter. T'inquiète, moi, j'ai déjà monté quelques boîtes, j'ai de l'expérience, c'est pas si compliqué. Puis, au bout d'un moment, il a tellement insisté que j'ai dit, bon, ok, si tu veux, on va déjeuner, on a parlé. Mais en fait, moi, secrètement, j'avais pas envie de monter une boîte avec lui, j'avais envie de monter une boîte avec ma meilleure pote, Alex, pour faire ce qu'on faisait de manière bénévole avant, quoi. Et il a tellement insisté que, bon, on a fini par en discuter. Puis le jour où j'ai vu qu'il était vraiment déterminé, c'est un jour, il m'a déposé dans mon sac, il m'a dit, bah tiens, regarde, j'ai écrit quelques petits trucs, on pourrait réfléchir à ça. Et je me suis dit, bon, ok, il a l'air déterminé, je vais lui présenter Alex, parce que moi, je me vois pas faire ce projet sans Alex. Je le vivrais tellement mal que c'est pas possible. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a monté donc, la boîte qui s'appelle LJA Sport. Donc, Laura, Yannick, Alex, mais surtout, Ladies are just amazing. Parce que c'est ce en quoi on croit. Et donc, du coup, avec la boîte, là, ça fait 4 ans qu'elle existe maintenant. Moi, j'ai la chance d'être salariée de l'entreprise.
Bah justement, c'est la question que tu as réussi à avoir une fin de contrat pour avoir le chômage avec ta...
Oui, 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 on a négocié. Et puis voilà, moi, après, j'ai quitté l'entreprise pour pouvoir développer cette activité.
Et Alex, elle continue à bosser ?
Oui, Alex, elle continue à bosser en parallèle, puisqu'elle a gardé son job. Elle est responsable communication par ailleurs. Et à la fois parce que quand on a lancé l'entreprise, on ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Et puis parce qu'on ne voulait pas... tout de suite être à 3 complètement dessus, il fallait d'abord qu'on développe la chose. Puis Alex, elle tient à continuer son boulot, enfin, elle aime ce qu'elle fait, c'est une façon pour elle aussi, d'avoir un double projet enfin, qui est aussi extrêmement stimulant. Donc petit à petit, comme ça, on développe l'entreprise. Moi, là, je suis devenue salariée de l'entreprise parce qu'on pouvait se le permettre et puis aussi parce que je suis à temps plein sur la boîte. Et donc au quotidien, on a deux grands projets. Enfin, on accompagne, on va dire, le sport féminin dans le sens où on a des joueuses qui sont sous contrat avec nous. On essaie de leur trouver des partenaires privés ou alors de les placer dans des entreprises qui tiennent compte de leur agenda sportif. On essaye aussi ces joueuses qui ont parfois des qualités qui sont géniales parce qu'elles sont chef cuistot, ostéo, kiné, prof, bah de les faire intervenir dans des événements que nous on crée avec le monde associatif pour qu'elles puissent faire bénéficier de leur talent, qu'elles puissent utiliser leur talent pour des personnes qui ont peut-être pas les moyens de se les octroyer. Et nous, on sert un petit peu de catalyseur autour de ça. On se charge de rémunérer les sportifs pour qu'elles puissent, on va dire, un petit peu rayonner par ailleurs. Ça leur met aussi un pied dans le monde de l'entreprise. Je pense que ça fait des échanges extrêmement intéressants entre différents types de populations qui ont toutes les raisons de se croiser et qui parfois n'arrivent pas à le faire. Et puis aussi, notre deuxième gros chantier, c'est l'accompagnement, on va dire, du monde de l'entreprise. Parce qu'on a développé des interventions sous forme de conférences, comme tu l'as vécu, des team building. Parce qu'en fait, les valeurs que nous, on a et qu'on vit et qu'on expérimente au quotidien dans l'équipe se retrouvent très, très bien aussi dans les managements des entreprises. Donc voilà, on a ces deux grandes parties autour du management dans l'entreprise et puis de la gestion du sport féminin.
Donc là, aujourd'hui, une entreprise qui a envie de booster ses équipes, comme j'avais pu voir il y a 2 ans, c'est quelque chose que vous continuez à faire aussi
Oui, on est extrêmement sollicités, en fait, parce que c'est vrai, je pense que ce qu'on explique et la façon dont nous, le sport, nous a fait grandir et nous a fait comprendre aussi la gestion d'un collectif, ça fait des parallèles qui fonctionnent très, très bien dans le monde de l'entreprise. Donc c'est vrai que... Bon, en dehors des vacances scolaires, on intervient, je pense, 3 ou 4 fois par semaine dans des entreprises. Ouais. Alors, ça peut être parfois un groupe de 10 personnes, un petit codir, ou ça peut être jusqu'à 200, 500, 1000 personnes, des grosses entreprises sur des gros séminaires.
C'est
ça,
toi et Alex ou juste toi?
Alors, la plupart du temps, c'est juste moi.
Ouais, parce que j'allais dire, il faut qu'elle arrive à trouver
Alex, elle peut se libérer de temps en temps, mais plutôt quand ce sont des interventions dans le nord de la France, alors qu'on intervient partout en France. Après, son employeur, il est très conciliant. Il sait qu'elle a aussi cette deuxième activité et il lui donne
cette
la possibilité.
Troisième, elle joue encore au rugby?
Elle coach maintenant. D'accord. Donc, c'est encore pire pour elle. Elle a une vie à 10 000 à l'heure. Ouais. Mais donc parfois, elle le fait de temps en temps avec nous, mais le plus souvent, je le réalise seule puisque moi, j'ai tout le temps de voyager et d'aller sur les sites où on nous sollicite. Donc voilà, souvent, c'est des conférences sous forme d'une heure et puis après, on fait des questions-réponses avec les personnes qui sont dans la salle. Et ça fait quand même des échanges assez riches, puisque chacun s'y retrouve. En fait, on fait tous partie d'un collectif, à minima. Que ce soit sa famille, que ce soit une asso, que ce soit son boulot, on fait tous partie d'un collectif. Et nous, on essaye peut-être de donner quelques clés de la façon dont, en tout cas, on a construit le nôtre. C'est peut-être pas le meilleur modèle, mais on sait qu'il y a des petits outils, des petites clés qui fonctionnent au quotidien.
Ah, qui inspirent. Et à partir de quand tu as été contactée par la radio pour pouvoir commenter des matchs?
Alors, ça s'est fait un peu par hasard, en fait. C'est vrai que j'ai commenté la radio, j'ai commencé avec Sud Radio où j'ai commenté des matchs pour la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde de rugby féminin. On a commenté quelques matchs à Paris et puis après c'est tout, j'avais arrêté. Parfois je fais quelques petites émissions.
T'étais timide quand t'étais petite, j'ai lu ça.
Ah oui, ouais, j'étais super timide. J'étais une enfant très très timide. Moi, déjà j'ai une sœur jumelle donc G, elle est très extravagante, très extravertie. J'ai toujours vécu un peu dans son ombre. C'était elle sur le devant de la scène, ça m'allait bien. Moi, j'étais tranquillement toute sage de mon côté. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop eu l'occasion en plus de m'exprimer et puis d'oser le faire. Et donc c'est vrai que moi même réciter une poésie à l'école, j'étais toute rouge et c'était horrible. Et c'est vrai que le sport m'a beaucoup aidée là-dedans. Je pense que le rugby, ça m'a un peu transformée sur ce côté-là, dans le sens où en fait t'arrives dans l'équipe et on te dit bon, toi t'as une place quoi. On s'en moque de qui tu es, de ce que tu fais, mais juste t'as une place. Et il va falloir l'assumer par contre. Et t'as une place et ta parole, elle compte autant que les autres. Tu peux t'exprimer, tu peux parler, tu peux donner ton avis, tu peux annoncer la stratégie. Et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à prendre confiance en moi, peut-être à révéler ce que j'avais à l'intérieur de moi, mon supplément d'âme que j'avais pas avant. Jamais je m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Et c'est vrai que le sport, ça m'a libéré pour ça. Et maintenant, en fait, c'est presque mon métier puisque je parle devant des gens, des assemblées, je fais des conférences.
T'as fait une conférence devant 2000 personnes?
Ouais, 2000, ouais. C'était le max. C'était génial. Ouais. C'était super. Après, c'était un moment très court. Le but, c'était de mettre un petit shot de motivation à tout le monde. Donc, il y a eu une ambiance de dingue. C'était super. Franchement, c'était ici à Paris. On a vécu un grand moment d'énergie tout ensemble. C'était 2000, principalement des femmes qui étaient là pour cet événement. C'était vraiment super. Mais ouais, j'étais une grande timide. Et en fait, le sport, ça m'a aidé, je pense, vraiment à m'émanciper et puis à prendre confiance en moi. Et puis maintenant, en fait, c'est devenu mon métier. Même si. Après, ce que je fais pour la radio ou pour la télé, c'est de manière très ponctuelle. J'ai commencé par la radio et puis du fait d'avoir fait un peu de radio, j'ai été contactée par France Télévisions qui cherchait une consultante sur le rugby féminin, parce que leur consultante venait d'arrêter. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, la première fois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, quand on est devant sa télé, de l'envers du décor, ouais, de tout ce qu'il y a derrière pour qu'on puisse regarder un programme, en fait. Et c'est complètement fou. Alors maintenant, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc là, par exemple, ce week-end, je pars au Pays de Galles pour commenter le France-Pays de Galles avec Jean Abeillou. Et c'est des expériences qui sont géniales.
Quand il t'a contacté, t'as dit que c'était une blague?
Ouais, ouais. J'ai vu que c'était une blague. J'ai cru que c'était un pote qui me faisait une blague, qui avait pris son accent du Sud pour me faire une petite blague. J'ai dû demander, mais vous êtes bien Jean Abeillou? J'ai lui demandé 3 fois, c'est sûr, parce que j'y croyais pas trop. Ça me paraissait fou de me retrouver à commenter les matchs, en fait. Ouais. C'est extrêmement... c'était super excitant. Et puis en même temps, c'était aussi...
Là, c'est des matchs masculins et féminins ou...
Non, que sur les filles. En plus, sur les hommes, ils ont une équipe qui est là depuis très longtemps. Et en même temps, moi, ma valeur ajoutée, elle est aussi sur les filles, parce qu'il y en a beaucoup que je côtoie en championnat. Donc, je connais un petit peu leurs spécificités. En tant que consultant, mon rôle, c'est d'amener, on va dire, le regard d'expert sur le rugby. Donc ma légitimité, elle est beaucoup plus sur le rugby féminin, de toute façon.
Il y a un truc que j'ai lu où tu disais qu'en fait, normalement, tu devais partir en vacances et que tu avais annulé tes vacances pour dire oui à Jean Abeillou. Et je me suis dit, souvent on dit les gens, ils ont de la chance, mais tu as quand même annulé tes vacances, quoi.
Ouais, c'est vrai. En plus,
c'est à La Réunion.
Exactement. Ouais. J'ai mon meilleur pote qui est parti s'exiler à La Réunion et qui est là-bas maintenant depuis très longtemps. Et j'y suis jamais allée, c'est toujours lui qui vient pour les vacances dans le Nord. Et là, j'avais pris mes billets et puis je devais partir 15 jours ou 20 jours, je sais plus. Et en fait, quand Jean m'a appelé pour me dire « on te propose de commenter les matchs », il dit « par contre, tu faut tout commenter, quoi. Tu peux pas juste en faire un ou deux ». Et si j'étais partie, j'en loupais un. Donc du coup, au téléphone, je lui ai dit « écoute, feu, quoi, on y va ».
Tu après, t'es pas posé de questions ?
Si, pendant 2 secondes dans ma tête, je me suis dit « punaise ». En plus, j'ai du mal à faire des choix dans ma vie. Mais je me suis dit aussi, il faut savoir saisir les occasions qu'on nous tend. Et ouais, je pense que parfois, il faut se lancer, quoi. C'est un peu comme l'entreprise, si j'avais attendu. Yannick, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit « Laura, tu sais, si on fait pas les choses vite, on les fera pas. Parce que si on réfléchit, il y aura toujours une bonne raison pour qu'on le fasse pas. On va toujours trouver des arguments qui feront que peut-être c'est pas la meilleure idée. Peut-être tous les voyants seront pas ouverts. Ouais. » Il me dit tout le temps ça. Il dit donc, si on pense que c'est une bonne idée, si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser, tentons-le. Donc là, c'est un peu ça. Je me suis dit, punaise, peut-être qu'on me le reproposera plus jamais. Et allons-y, feu, tant pis, je retournerai une autre fois en vacances. Et puis finalement, bon, du coup, maintenant, je suis sûre que je pars plus jamais en vacances au mois de février.
Ouais.
Parce que la période est assez chargée, vu qu'on se déplace un peu partout en Europe. J'ai pas trop de week-end en ce moment, mais c'est une expérience qui est folle. Et tant que j'ai la chance de pouvoir la faire, j'en profite à fond, parce que ça durera sûrement pas des années. Enfin, ouais. C'est des métiers qui, en plus, c'est pas mon métier, donc à tout moment, on peut prendre quelqu'un d'autre.
Ouais. C'est fou ce que tu dis quand t'as du mal à faire des choix dans ta vie, parce que quand on, de l'extérieur, on peut pas imaginer ça du tout de toi. C'est, mine de rien, pour moi, t'as écouté ta petite voix, tu te dis, moi, j'ai envie d'être dans le rugby, je bosse la nuit, le week-end, c'est pas grave, mais on pourrait pas croire que t'es quelqu'un qui prend pas de choix. Au contraire, t'as des choix affirmés, en mode, je veux travailler dans le sport et je fais tout pour y arriver.
Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai tendance à avoir du mal à dire non, en fait. C'est vrai que souvent, je dis ok, je vais faire, et puis après je me retrouve avec une montagne de choses sur le dos, et là je me dis bon, très bien Laura, t'en as beaucoup trop à gérer. Et non, j'ai du mal à faire des choix. Alors je fais des choix forcément, mais avant d'écouter la petite voix qui essaye de se faire entendre, c'est vrai que je me pose 1000 questions. Et puis quand c'est comme ça, j'appelle Gina ou j'appelle Alex et je dis bon, qu'est-ce que tu ferais à la place, et directement elles me disent ce que j'ai besoin d'entendre, quoi. Mais je pense aussi que c'est important de savoir écouter. Moi, je préfère, j'aime bien analyser, j'aime bien peser le pour le contre avant de me décider, pour avoir l'impression quand même de savoir où je vais. Alors oui, on est toujours confronté en permanence à faire des choix, même dans le sport, dans le rugby, encore plus. Tout est toujours une question de choix sur le terrain, sur les stratégies. Et quand on a la pression, on est obligé de le faire en vitesse. Ouais. C'est pour ça, tant pis si on se trompe, c'est poubelle. Et alors que dans la vie, comme on a le plus le loisir de se poser la question, parfois on tergiverse un peu. Mais Yannick me fait beaucoup grandir là-dessus. Quand il me dit, bon, si tu veux qu'on essaye, il faut le faire maintenant, parce qu'en fait, l'année prochaine sera trop tard.
Ouais. Et quand t'as monté ta boîte, comment a réagi ton entourage ?
Mais ils ont été quand même, je pense aussi assez enthousiasmés. Enfin, disons que j'ai pas souvenir, en fait, que de manière générale, j'ai eu beaucoup de mise en garde ou qu'on m'ait arrêté sur la chose. Mon père est commerçant dans l'âme. Donc
il faisait quoi comme métier, tes parents? Ils font toujours.
Ma mère est infirmière. Et là, mon père, lui, il travaille en tant que réceptionniste. Mais juste avant ça, il a travaillé pendant 40 ans sur les marchés. Il était commerçant itinérant. Donc lui, pour lui, c'est l'aventure. Il m'a dit, bien sûr, vas-y, fais ce que tu veux, t'as bien raison. Il m'a dit, non, tu veux pas monter une affaire avec moi, plutôt? il était à fond. Après, ma mère, c'est quelqu'un de plus prudent. Mais c'est pareil, même si eux, en plus, c'est quand même... Ils m'ont accompagné dans mes études. L'école de commerce, c'est pas les études les moins chères de France. Et jamais, ils m'ont dit, le fais pas, quoi. Ils m'ont dit, écoute, si t'as envie de le faire, si tu penses que c'est une bonne idée, vas-y. Et pareil pour mon entourage proche, en fait. Et ce qui est génial... J'ai jamais ressenti de frein de ce côté-là. Ouais. Autant, venant de l'extérieur, c'est comme dans le monde du rugby, les gens extérieurs ont eu tendance parfois à me dire c'est pas un sport pour les filles, c'est compliqué, c'est tout ce que tu veux, alors que mon entourage proche, jamais. Donc c'est super pour se lancer, quand on a le soutien en plus de ses proches, c'est encore mieux.
Ouais.
Et je sais en plus que si j'avais pas eu leur soutien, je pense que dans tous les cas, je l'aurais fait. Mais c'est d'autant plus facile quand on se sent, sent accompagné.
Clairement.
Mais ce qui fait aussi que c'était rassurant, c'est que quelque part, on a fait en sorte de ne pas prendre trop de risques non plus dès le départ, puisqu'on ne s'est pas jeté à trois sur l'entreprise, on n'a pas fait des investissements colossaux. Ça nous a permis de nous dire, OK, on tente, on est prudent, petit à petit, on essaie de développer notre petite aventure. Si ça fonctionne, tant mieux, on essaie de lui donner de l'ampleur. Et sinon, tant pis, on aura essayé, on aura vécu un bon moment, et puis on n'aura pas trop perdu non plus. Donc on s'est lancé dans cette aventure qui maintenant est devenue l'aventure de notre vie, sans non plus prendre des risques démesurés. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a rassurés dans le fait de se lancer et qui fait que moi, qui n'avais jamais créé d'entreprise, j'ai osé me lancer avec Jannick, que je ne connaissais pas tant que ça, et parce qu'on s'est dit,
Créer une boîte avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quand même...
Mais quand on prend un petit peu de recul, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, au départ, se disaient, peut-être que ce n'est pas une bonne idée ou peut-être que lui, il n'a pas les bonnes intentions, mais c'est quand même un homme qui voulait se lancer dans le sport féminin alors que c'est quand même absolument pas un monde dans lequel il y a de l'argent à se faire. C'est au contraire, il faut d'abord défricher. Il y a beaucoup de avant de gagner de l'argent, il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Et donc, moi, je me suis dit, punaise, en fait, c'est génial, c'est une opportunité de malade que cette personne-là, elle ait envie de se lancer là-dedans. Peut-être que j'en croiserai pas beaucoup dans ma vie non plus. Donc en fait, je sais pas si c'était couillu, mais en tout cas, je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ces dernières années.
Et dans le sport féminin, dans le rugby particulièrement, pour le corps d'une femme, c'est quand même dur. J'entendais dans Putain de Nana, je sais plus qui disait, j'essaie de pas trop faire de muscu parce que sinon mes seins ils vont se transformer en pec.
C'est Alex qui dit ça.
Je dis c'est vrai, j'y avais jamais pensé avec ces et vous vous disiez aussi que finalement vous partez armée parce qu'il faut se battre et sur le terrain, mais t'as pas non plus envie de déformer ton corps.
Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, le sport de haut niveau, de manière générale, ça transforme ton corps. Toute pratique extrême, quand je dis extrême, c'est s'entraîner tous les jours, évidemment, ça amène à transformer ton corps, parce qu'il n'est pas fait à la base pour ça. Mais après, c'est vrai qu'on essaie de garder une certaine mesure. On doit aller à la muscu, mais c'est la muscu avant tout pour se protéger, pour être suffisamment protégé sur le terrain. C'est l'objectif, c'est pas de gonfler ou de prendre en masse musculaire. Mais après, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut de son corps.
Ouais.
Et nous, entre nous, et c'est ça qui est génial dans ce monde, dans le monde du rugby, c'est qu'on essaye de se détacher de toute forme de jugement. C'est vrai que dans une équipe de rugby, il y a beaucoup de gabarits différents, des grandes, des petites, des grosses, des maigres, tout ce qu'on veut. Et ça nous apprend aussi à nous détacher aussi beaucoup de ça. On fait beaucoup d'autodérision, on se joue beaucoup de nos corps, on fait des concours, les plus gros mollets, les orteils les plus moches. Mais c'est vrai que après, s'il y a des filles qui ont envie de passer leur vie à la salle de muscu, mais qu'elles le fassent, même si elles font pas de rugby, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de clichés et beaucoup de préjugés autour de cette image du corps dans la société actuelle. On se juge énormément sur l'apparence.
Ah bah c'est clair.
Physique, enfin, c'est difficile et encore plus pour les plus jeunes. Et je pense qu'on gagnerait à se détacher de ce jugement. Alors oui, moi, j'ai pas envie de passer ma vie à la salle de muscu, même si j'adore ça, en fait. Je passe ma vie à faire du sport, même d'autres sports que le rugby, parce que j'adore.
Ouais, t'es venue, j'habite au 7e étage, et tu es venue, je me suis dit, elle met du temps, elle a dû monter à pied, il y a 7 étages, allez.
Non, c'est juste parce que j'aime pas les ascenseurs.
Et puis ils sont costauds, ils sont costauds, mes escaliers, c'est pas des demi-étages, ouais.
C'est super long, mais j'aime pas trop les ascenseurs parisiens, c'est bien trop petit. Mais donc c'est vrai que par contre, Au-delà de la transformation, du fait de la pratique de la muscu et du sport en lui-même, c'est un sport où on prend des coups.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on peut s'abîmer, on peut, voilà, ça arrive hein, dans une carrière, des entorses, des fractures, des coups, des bosses, des bleus. Mais on sait dans quoi on s'engage au départ. On sait qu'on va faire du rugby et on sait que c'est aussi une partie du jeu, quoi.
C'est le risque. À chaque début de match, vous offrez chacune le maillot, vos maillots. C'est un truc qui existe dans tous les clubs de rugby ou c'est propre à votre équipe de putain de nana?
Alors, c'est pas dans tous les clubs de rugby. Alors, c'est ce qu'on appelle la remise de maillot. C'est vrai que dans de nombreuses équipes, il y a des remises de maillot. Mais de manière générale, la remise de maillot, c'est souvent soit l'entraîneur, soit le président, soit une personnalité, soit un ancien joueur qui remet à chaque joueur son maillot. En disant, bah voilà, bon match, sois fort, etc. Et c'est vrai que nous, à Villeneuve-d'Ascq, on a essayé de donner une autre ampleur à ce moment-là. Parce que moi, en tant que capitaine, j'ai toujours considéré que c'était assez injuste que ce moment qui est assez magique n'appartienne qu'à une seule personne. Qu'au capitaine, qu'à l'entraîneur. Je trouvais ça assez anormal. Parce qu'en fait, ce moment de remise de maillot, ça représente tout ce pourquoi on s'entraîne tous les jours. Le petit bout de tissu qu'on a sur le dos, en fait, c'est ce pourquoi on se bat toute la semaine et pour lequel on donne le plus de temps et d'énergie. Du coup, à Villeneuve, c'est vrai qu'on a essayé de libérer un peu cette remise de maillot. Donc la tradition, c'est on se met en cercle, on met tous les maillots par terre et chacun donne le maillot à qui il a envie. Donc une fille ramasse un maillot, il donne à une autre joueuse et puis il y a toujours un petit mot qui s'accompagne ou parfois d'ailleurs, il n'y a rien. Et moi, les plus belles émotions que j'ai vécues de toute ma carrière, c'est dans un cercle pour remettre un maillot avec les joueuses. Et bien plus fort que les titres de championne de France, bien plus fort que l'équipe de France. C'est les secondes qu'on est capable d'immortaliser à ce moment-là où les hommes se retrouvent avec les hommes ou les femmes avec les femmes, où vraiment, c'est intense, quoi. Et j'aime bien, je trouve que c'est des secondes un peu hors du temps.
Ouais.
Et on a eu la chance de se créer ça. Et la remise de maillot, c'est un rituel qu'on ne veut pas perdre, quoi.
Et oui, quand tu dis rien, t'as le regard qui fait tout, quoi.
Mais bien sûr, ouais. Mais c'est incroyable, c'est ce qui est génial. Après, en plus, plus on joue ensemble, plus on se connaît, mais juste d'un regard, il y a des émotions qui passent, et c'est la force du sport. Et le rugby, d'autant plus, puisque c'est un sport où on sait qu'on va devoir aller se livrer, et donc il faut qu'on sache que les gens sont avec nous, quoi. Quand on est sur le terrain, il faut pouvoir compter sur les autres, parce que on se met en danger, on se met en jeu, il y a l'autre équipe qui est là, donc on a besoin de savoir qu'on peut partir avec les gens qui sont dans le vestiaire. Et le fait de se remettre le maillot et de se dire « punaise, toi et moi, on va y aller ensemble », c'est quelque chose de très très fort. Et moi, presque, si je fais juste la remise de maillot et que je joue pas le match, ça me suffit. Je préfère ne faire qu'une remise de maillot et pas jouer, plutôt que de jouer sans faire la remise.
Ouais, c'est chouette ça. Qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait la petite Laura de 6 ans si elle te regardait aujourd'hui?
Elle me dirait, mais va faire les experts à Miami, c'est mieux payé. Non, tu te ratisons. Je crois qu'elle serait complètement hallucinée parce qu'elle n'en croirait pas ses yeux. Elle aurait super peur de devoir faire une conférence. Mais c'est vrai que je pense que jamais j'avais imaginé le parcours que je suis en train maintenant de me construire. Parce que je pense qu'on est le fruit de tout ce qu'on rencontre, de ce qu'on croise, de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit, de ce qu'on rate. Et moi, jamais à cet âge-là, je savais même pas ce que c'était qu'un ballon de rugby. Je savais pas en fait qu'il y avait autant de possibilités qui allaient s'offrir à moi. Donc, je pense qu'elle serait, à fond derrière. En plus, c'est génial parce que moi, je dis toujours que j'ai quand même eu, j'ai eu un parcours, j'ai eu beaucoup de chance parce que. Je suis passée par des étapes complètement différentes. J'ai croisé des mondes que je ne pensais pas croiser.
Tu penses à quoi comme monde?
En fait, ce qui est génial dans une équipe de rugby, c'est qu'on rencontre des gens vraiment qui sortent de nos sphères habituelles. On est tous dans notre petite sphère, on va dire, classique de notre vie classique. Les gens qu'on a rencontrés pendant nos études, nos amis proches, ceux qui vivent dans notre quartier... Et dans le monde du rugby, débarquent des personnes en fait qui sortent de ces mondes-là et qui vous ouvrent complètement à d'autres univers. C'est vrai que dans l'équipe, nous, on a des filles entre 18 et 33 ans, on a des mamans, on n'a pas de mamans, on a des étrangères, on a des filles qui sont très croyantes, très pratiquantes, des religions différentes, on a des sexualités différentes, des origines différentes. Et c'est fou en fait parce que c'est une ouverture, ça nous oblige à avoir une ouverture d'esprit qu'on pensait pas rencontrer avant. Enfin, c'est fou. Et ouais, donc j'aime bien me dire que j'ai croisé ces mondes-là. Alors, il y a des gens avec qui j'ai gardé des affinités et puis on se revoit très régulièrement. D'autres, pas du tout. En fait, on s'est juste croisés. Mais ça, en fait, on apprend en permanence des autres.
Ouais. C'est hyper riche.
Ouais, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que on se pose pas la question d'aller s'entraîner ou pas tous les soirs. C'est parce que ce qu'on vit entre nous, c'est très riche. Au-delà du résultat, au-delà du sport, ouais. On vient aussi pour les gens.
Ouais. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser et comment tu les as gérées?
Oh, les difficultés, tu veux dire d'un point de vue sportif ou pas forcément?
Pas forcément.
Mais l'année qu'on a vécue avec Alice, ça a été assez compliqué parce que quand on a appris la nouvelle et qu'on s'est rendu compte que on savait pas si elle allait s'en remettre et que nous on se dit qu'on allait arrêter de jouer alors qu'on était une équipe vraiment vraiment très très forte. Enfin, je me suis demandé en fait comment on allait s'en sortir de cette difficulté et au final, je pense qu'à la fin de l'histoire, ça nous donne la plus belle aventure qu'on ait jamais vécue. Alors qu'au départ, on était toutes à deux doigts d'abandonner, à dire allez c'est bon, on arrête, on rentre chez nous, puis on va pleurer dans notre canapé quoi. Et donc je me rends compte que parfois, c'est pas parfois, c'est à chaque fois, et c'est l'enseignement même du rugby. Hein. Le rugby, quand t'es par terre, en fait, on te dit bah tu te relèves, hein, t'inquiète, c'est la règle, hein, on va te plaquer, tu vas tomber, tu vas te relever, ça n'est que ça. Et à l'échelle, si on prend un peu de hauteur, je pense à l'échelle de la vie, les épreuves, faut réussir à les prendre aussi comme ça. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que tout à chacun, à notre façon, on a notre lot d'épreuves, on a notre lot de difficultés. Je pense que certaines personnes sont pas épargnées par la vie du tout, mais au final, on n'a pas le choix, d'autre choix que d'avancer. Et cette année-là, on a transformé la pire des épreuves en la plus belle des aventures. Et on a eu beaucoup de chance au final avec Alice parce qu'elle va bien. Elle est repartie comme en 40. Elle court un peu moins vite qu'avant, mais elle est toujours là. Elle a toujours le sourire. Donc ça, c'est super. Donc ça, ça a été une épreuve qui a été vraiment à la fois très difficile, mais aussi très enrichissante parce que ça te donne aussi... C'est fou, en fait, il faut toujours attendre de se prendre un truc dans la tronche, une grosse épreuve, pour se rendre compte que c'est possible. Mais peut-être que, en fait, la vie, elle t'impose ça pour que derrière, tu puisses en tirer les enseignements. Donc ça, ouais, ça a été complètement fou. Après, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de pas avoir eu tant que ça de grosses difficultés. Mais de nouveau, en fait, tu vois, la plus grosse des difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours sportif, j'ai dû arrêter l'équipe de France parce que le boulot, il me libérait pas. Puis derrière, ça amène, en fait, au fait que j'ai pu créer ma boîte, qui est, je pense... simplement la plus belle aventure professionnelle que je pourrais ne jamais avoir, tu vois. Donc, de nouveau, tu pars de ça en pouvant te dire, punaise, enfin, c'est injuste, c'est horrible, c'est trop moche, j'ai pas de chance. Mais si tu prends ça complètement de l'autre côté, tu te dis, mais c'est une opportunité énorme et ça va m'amener. OK, il faut attendre quelques années, mais quand t'es dans le tunnel, peut-être que tu le vois pas, mais en fait, quand t'en sors, tu te dis, mais en fait, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver.
Ouais, hier soir, je dînais avec une amie qui a fait un burn-out, en gros, à 2 mois d'écart avec moi. Elle, c'était après moi. Un jour, elle me disait, on passait un week-end ensemble pour mon enterrement de vie de jeune fille, et elle me dit, mais en fait, t'es en train de me décrire tous tes symptômes, et en fait, je suis pareille. Et donc, elle s'est arrêtée hier soir, donc c'était au bout de 6-7 mois. Elle me dit, mais en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie de m'arrêter, en fait. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de créer Pourquoi Pas Moi, parce que je me suis dit, bon, moi, je me suis pris le mur, hein, ça a fait mal, et clairement, je vois plus la vie de la même façon. Et je me dis, bah, en fait, si je peux permettre à des gens de ne pas avoir à se prendre le mur et qu'ils puissent écouter leur petite voix avant de se faire mal, bah, ça serait génial, en fait, parce qu'en fait, il y a des ce que Christine Michaud, qui est une psychologue positive, qui est une grande prêtresse au Canada, elle appelle ça les cadeaux de mal emballés de la vie. Donc, il y a des cadeaux mal emballés qui t'arrivent. Je pense notamment, tu vois, Cyril Després, quand il a gagné son premier Dakar, en fait, ils étaient au coude à coude avec un autre pilote, et en fait, le pilote est décédé pendant ce Dakar-là. Donc, il dit, bah, 2 jours après, il a fallu que je remonte sur ma moto. Et c'était un de ses potes, c'était son coéquipier, il a gagné le Dakar pour lui, en fait, pour Fabrizio. Et tu te dis, bah, ouais, c'est fou de te dire, bah, tu arrives à tirer une force dans des épreuves de la vie, ou même. Olivier, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait l'UTM. Olivier, en fait, son changement de vie, c'était lié à une opération. Et en fait, il s'est réveillé d'une opération bénigne avec le visage paralysé. Et en fait, bon, aujourd'hui, il arrive à peu près à bouger son visage, mais il a cru qu'il allait mourir. Et il s'est dit, mais en fait, ma vie, je veux plus...
Je veux en profiter.
Je veux en profiter de chaque seconde et de façon intense. Et en fait, tu te dis, ouais... Quand t'es en bonne santé et que tout va bien et que t'as des cadeaux mal emballés qui t'arrivent, bon bah sachons rebondir. Mais si tu vas bien, bah écoute-toi, en fait, on a tout pour être heureux, mais allons-y quoi.
Ouais, c'est ça. Peut-être pas attendre le cadeau mal emballé et s'en rendre compte avant.
Ouais.
Mais parfois, ouais, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il faut ça sur certains moments
pour
sa vie.
Pour certaines personnes, bien sûr. Ouais.
Mais c'est vrai que tant qu'à faire, et c'est aussi Nous, quand on est en conférence, bah, les psys, on peut tous ensemble se passer des petits messages et puis se rendre compte. Mais c'est difficile de se mettre sur off, prendre un peu de hauteur et puis savoir se regarder parce que on vit tous à 10 000 à l'heure. En plus, on est tous entourés partout de technologies dans tous les sens qui font que ça accélère encore plus nos rythmes de vie. Et c'est vrai que prendre un petit peu de hauteur et puis se dire, mince, qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui fait que le matin, quand je me lève, punaise, je suis bien? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Je pense que, en tout cas, moi, je me rends compte à quel point, quand on a trouvé sa voie, il devient insupportable de faire autre chose, quoi.
Ouais, donc, c'est pas possible. Ouais.
C'est ça. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir y arriver.
Ouais. Et dans tes plus grandes joies?
Mes plus grandes joies?
Tes premiers trucs où tu dis, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, j'y suis.
Ah oui, là, moi, dans ce que je fais au quotidien avec LGA Sport, c'est génial parce que je ne me vois pas faire autre chose. Et je ne sais pas combien de temps notre aventure entrepreneuriale, elle durera. J'espère longtemps, mais chaque projet qu'on monte, chaque petite victoire, chaque moment partagé, c'est fou. Moi, je rentre le soir et je me dis, finalement, c'était génial ma journée. Et je pense que ça, c'est une de mes plus grandes joies parce que je me rends compte à quel point ça m'épanouit au quotidien de me lever et d'être heureuse de ce que je fais. En plus, j'ai eu la chance de le faire très très vite. Ce que je dis toujours à Jannick, tu m'as fait gagner 30 ans de ma vie parce que peut-être que j'aurais monté ma boîte dans le sport dans 30 ans, j'aurais osé le faire. Là, je l'ai fait quand j'avais 26 ans et en fait, je me rends compte à quel point c'est génial. Moi, je pense qu'un des plus grands accomplissements que j'ai pu faire et que je m'imaginais surtout pas, on s'imagine tous évidemment, on va avoir un beau travail, une belle maison, une belle famille, ça, on se l'imagine. On va dire dans le rythme des choses qu'on essaie de nous imposer au départ. Mais. Trouver ma voie comme ça, en fait, je ne savais pas ce que c'était trouver sa voie.
Ouais.
Et je m'en suis rendu compte en le réalisant, sans savoir que je le réalisais.
Ouais.
Et ça, c'est génial.
Ouais. C'est toute la magie de la chose.
Ouais, exactement.
Et quand on dit qui dit choix dit renoncement, quels ont été les tiens?
En plus, je suis assez d'accord avec ça. Choisir, c'est renoncer. C'est pour ça que j'ai du mal à faire le choix. Le choix que j'ai fait, c'est difficile parce que quand on a du mal à faire des choix, justement, on veut tout faire en même temps pour essayer de pas avoir à choisir, c'est terrible. Et puis c'est là où on se rend compte qu'à un moment donné, la vie, elle choisit pour nous parce qu'elle fait en sorte qu'on puisse pas tout faire. Le plus grand choix que j'ai dû faire par rapport à tout ça, c'est en effet, c'est à un moment donné se positionner. Est-ce que j'arrête par exemple l'équipe de France et je monte ma boîte? Et en effet, j'ai renoncé à quelque chose. Je pensais que ça allait être dur et puis au final, ça m'a amené à créer autre chose. Tout comme quand j'étais en école de commerce, j'ai toujours refusé, j'ai toujours fait des petits stages dans le nord de la France pour pas m'éloigner du club, pour jouer au rugby, jusqu'à un moment donné où l'école m'oblige à partir 6 mois à l'étranger parce que c'était obligatoire. J'avais attendu le dernier semestre et je suis partie 6 mois aux États-Unis et c'était génial. J'ai eu l'impression de renoncer à mon équipe pendant 6 mois, les abandonner alors que j'étais capitaine, alors que c'est plus haut niveau. Puis en fait, j'ai vécu 6 mois, monstrueux, culturellement parlant, humainement parlant, j'ai rencontré du monde, j'ai pris un shot d'adrénaline sur 6 mois qui était génial. Et donc, je pense qu'on renonce, mais à partir, enfin, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours du positif à tirer de toutes les situations, même si, encore une fois, au départ, on peut peut-être ne pas se rendre compte. Mais ouais, ça a été des choix qui m'ont obligé à avoir quand même le verre à moitié plein quand j'avais l'impression que ça allait être super contraignant.
Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
De quoi je suis la plus fière? Oh punaise, ça c'est une question. Je suis fière de plein de choses. Non, je pense qu'en ce moment, je suis fière de ce qu'on essaie de construire avec LGA Sport parce qu'on essaye de monter. En fait, comme je te le disais tout à l'heure, je suis persuadée que tous dans notre coin, il y a des potentiels un peu partout. Il y a des gens qui ont à donner, il y a d'autres personnes qui ont à recevoir. Et nous, avec LGA, on essaie d'être ce catalyseur. Et j'aime bien quand je termine ma journée que des gens que j'ai rencontrés en conférence ou des gens que j'ai fait bosser ils viennent juste me dire aujourd'hui vous m'avez donné le sourire. Et ça me rend fière quand ce qu'on a créé avec Jannick et Alex, juste peut-être si ça a donné le sourire à une personne, je me dis que j'ai réussi la journée, tu vois.
Ouais.
Et ça, en fait, c'est des petites fiertés du quotidien. Je trouve que si tu arrives à t'en satisfaire, tu peux avancer facilement, ça sert à rien de voir trop trop loin. Faisons déjà tous très bien notre taf à notre échelle, notre petite mission à notre échelle, et peut-être qu'on sera tous ensemble plus heureux.
Ouais. Si quelqu'un te dit t'as réussi, t'as les liés exclusivement à de la chance, qu'est-ce que tu dis?
Je dirais que je pense que la chance, ça se provoque, et qu'évidemment, il en faut toujours une petite partie, mais je crois beaucoup à l'audace, au fait de Un jour, j'ai entendu un monsieur en conférence dans un TEDx, je suis incapable de te redire son nom, il disait la différence entre le courage et l'audace, c'est exactement la même chose, sauf que le courage, c'est quand t'as pas le choix. Et l'audace, c'est quand tu pourrais te permettre de pas le faire. Et j'avais trouvé ça assez génial. Et en effet, on dit souvent que la chance sourit aux audacieux, alors peut-être qu'en fait, c'est pas tant que ça de la chance.
Si Avec du recul, si quelqu'un te croise, quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne
Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise écoute-toi.
Ouais.
Écoute-toi, mais écoute-toi tout de suite, quoi. Parce que c'est vrai que, tu vois, moi, je suis partie dans des... Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, c'est des erreurs. Enfin, des erreurs, c'est même pas des erreurs. Au final, ça a été génial. Je regrette absolument pas. Moi, je suis partie, je fais des études de prépa pour une école de commerce. Je voulais absolument pas faire une école de commerce. J'ai coché la case qu'on m'a dit, bah, tu travailles bien, vas-y, va faire ça. Alors qu'en fait, mon rêve, c'était de bosser dans le sport. J'aurais pu faire autre chose. Peut-être que j'aurais gagné du temps, j'en sais rien. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est écoute-toi, quoi. Écoute-toi et n'aie pas peur. Mais finalement, j'ai eu la chance que ces conseils-là, je les ai eus. Peut-être un tout petit peu plus tard, mais je suis super reconnaissante parce que j'en ai bénéficié et ça me permet aujourd'hui d'être complètement, de vivre complètement ma passion. Mais ouais, je pense qu'il faut réussir à s'écouter. Il y a toujours, comme tu parlais tout à l'heure, cette petite voix. Je pense qu'elle a souvent raison.
Ouais. C'est quoi tes prochains défis ?
Mes prochains défis, avec LGA Sport, on va créer cette année un fonds de dotation. Un fonds de dotation pour les sportifs en situation de précarité, pour justement essayer d'inciter des boîtes, des personnes qui auraient envie d'investir dans le sport féminin, de le faire à nos côtés. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile d'avoir des joueuses sous contrat avec nous, pardon, et de leur trouver des sponsors. Parce que bon, malgré tout, le monde des bisounours, c'est sympa, mais quand on dit à une grande boîte, est-ce que vous voulez donner de l'argent à une sportive ? Bon, vous allez avoir une fois par an à la télé, et puis en effet, ça a des retombées beaucoup moins importantes que le sport masculin. Bah, c'est plus difficile pour les boîtes de s'engager parce qu'elles ont d'autres sollicitations. Alors qu'on espère que le faire via le don par le fonds de dotation, ça peut inciter des personnes à s'engager à nos côtés. Et on voudrait utiliser ce fonds justement pour pouvoir rémunérer des sportives pour des travaux qu'elles réaliseraient dans le monde associatif en utilisant ce pourquoi elles sont formées. Tu vois, on a des sportives, elles sont ostéopathes. Bah, peut-être qu'elles pourraient intervenir dans des assos pour des personnes qui ne peuvent pas se payer ces services-là. Mais donc ouais, ça c'est un autre très très gros projet qui nous tient énormément à cœur parce qu'on se dit que ça pourrait être une façon de boucler la boucle, de vraiment finir ce pourquoi on avait monté la boîte et on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant et on se dit qu'en passant par un fonds de dotation ça pourrait être le cas. Et après, sinon, j'ai plein de projets, mais quand tu joues au rugby, ton projet principal c'est de te demander... À quelle heure tu dois arriver à l'entraînement pour t'entraîner le soir.
Ouais.
Donc j'attends de plus jouer pour après pouvoir faire autre chose. Mais
ça sera quand ça, tu penses ?
Oh, la question de la retraite, c'est une question difficile.
Ouais.
Ouais, moi j'ai bientôt 30 ans.
Joker.
T'es un peu dans la période fatidique là où tu te dis bon, j'ai d'autres vies à construire aussi, ouais. Forcément. Il me reste une, deux saisons peut-être et après voilà, je passerai chez les vieilles.
Parce que pour la vie amoureuse, t'arrives à.
Ah bah, faut aussi forcément avoir un entourage qui est à la fois très proche, très conciliant et qui comprend que t'as besoin de ça dans ton équilibre, ouais. Évidemment. Et puis après, il y a la période aussi, souvent, les joueuses entre 28, 30, 31, 32, elles se disent, je vais fonder une famille, j'ai envie de ça, si j'en ai envie, il faut que je le fasse maintenant. Et donc, après, revenir après une grossesse, c'est quand même très, très compliqué. Nous, dans l'équipe, on a deux mamans. Ouais. Chapeau à elles, parce que vraiment, elles sont géniales. Mais c'est quand même assez, assez difficile. Donc, c'est souvent le seuil un peu fatidique. Donc là, je rentre bientôt dans cette partie-là, moi. Même si t'arrêtes jamais vraiment, tu viens toujours voir les matchs, t'as toujours cette partie-là. Donc, ah oui, ça, c'est vrai que c'est un de mes grands projets. Tiens, me demander ce que je vais faire sportivement l'année prochaine. On verra. Bon, pour l'instant, je cours encore assez vite.
Ouais.
Les petites jeunes, elles avancent pas. Elles ont la caravane.
Avant qu'on se quitte, à qui tu voudrais dire merci et pourquoi ?
Oh, j'ai plein de merci à distribuer. Moi. Alors, je vais en dire quelques-uns. Ouais, j'ai fait un truc classique comme ça.
Non,
la dernière fois, j'étais en table ronde avec une personne et puis il y avait des questions par des étudiants. Et un étudiant qui dit quelle est la personne qui vous a inspiré ? Donc, moi, j'ai dit un truc sur le sport. Et la femme, elle dit moi, c'est mon père, il m'a inspiré. Du coup, je dis moi aussi, c'est mon père, il m'a super inspiré. Papa, si tu m'écoutes. Non, ouais, ouais, j'ai un premier merci ouais, à mes parents. Et j'en parle souvent en conférence parce que j'aimerais que tous les gens qui m'écoutent comprennent à quel point c'est génial quand t'es une petite fille ou un petit garçon de sentir que t'as l'appui de tes parents sans être jugé, sans être bloqué. Et moi, voilà, mes parents nous ont toujours laissé essayer. T'as envie de faire du rugby ? Bah vas-y, fais-le. T'as pas envie d'en faire ? Bah on va pas te forcer. Et ça, ça a été génial parce que ça m'a permis de m'accomplir derrière. Ensuite, le merci que pour moi est super important, c'est les deux lettres qui m'accompagnent, que j'ai présentées au départ. Donc le A, c'est Alex, c'est ma meilleure pote. On s'est lancé dans des aventures géniales, on a tout partagé, le rugby, pas le rugby, la LGA maintenant. c'est génial de pouvoir partager en fait des moments comme ça au quotidien sans se prendre la tête, en se disant voilà, on tente et puis ça dure en fait dans le temps, c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un coup d'éclat. Donc ça c'est génial et J, c'est Yannick. Yannick, c'est énorme, je lui dis tout le temps, moi t'as transformé ma vie en fait. T'as réalisé ton rêve et t'as réalisé le mien avec, et du coup moi peut-être que je réalise le rêve d'autres personnes. Et ça c'est génial, et je pense que au quotidien on a tendance à oublier de remercier les gens en fait, mais on est riche de tous ceux qui nous entourent. Mais ouais, je pense que le A et le J ils font beaucoup dans ma construction.
Ouais. Petite question de Joker, qu'est-ce qui t'a inspiré dans tout ce parcours, des livres, des personnalités?
Moi j'ai toujours été fascinée par la personnalité de Nelson Mandela. Complètement par hasard, pas par le rugby. En fait, un jour, c'est fou, je regardais un match de rugby, j'étais gamine, j'avais 14-15 ans. C'est un match de rugby de l'Afrique du Sud des moins de 20 ans. Et le présentateur commence à dire oui, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire, cette équipe. En plus, quand on connaît l'histoire du pays. Et moi, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et du coup, j'étais faire des recherches et je suis tombée sur toute cette histoire qui est complètement folle de l'apartheid. Et je me suis pris de passion pour ça. Et du coup, même en lisant l'autobiographie de Mandela, Un long chemin vers la liberté, je me suis dit waouh, mais la force mentale de ce mec pour sortir après 27 ans de prison et dire à tout le monde prenez vos armes et jetez-les à la mer, tu vois. J'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça fort, j'avais trouvé ça puissant comme message. Tout le monde te dira que c'est utopique, mais en fait, non, c'est juste puissant et profondément humain. Donc, ça, c'est un parcours qui m'inspire beaucoup. Et en plus, dans le sportif, c'est le fameux auteur de la citation je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un peu galvaudé, mais je pense qu'il a complètement raison. Donc c'est un personnage vraiment qui m'inspire énormément. Et après, je crois que j'ai trouvé mon livre préféré il y a pas longtemps, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je crois vraiment que j'aurais du mal à faire mieux. C'est Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry. Et ce livre, il paraît anodin, parce qu'en plus c'est pas du tout son plus connu, puisque tout le monde ne connaît que, enfin, tu connais au minimum le Petit Prince. Mais en fait, cet auteur est... Enfin, il faudrait qu'on fasse un podcast juste sur lui. C'est ce qu'il est capable de créer avec des mots, c'est monstrueux. Franchement, parce que Le Terre des Hommes, c'est un de ses premiers livres où il raconte sa condition un petit peu de pilote, puisqu'il était pilote. Ouais. Ça commence comme ça, en fait. Tu crois que ça va être un peu ça, un petit peu récit autobiographique de ce qu'il faisait dans son petit avion quand il traversait le monde. Mais en fait, derrière ça, il y a un tel message sur la condition humaine, sur la façon dont on vit entre nous, sur la façon dont on se construit, sur ce qu'on est, sur ce qu'on peut faire. Et le dernier chapitre, qui s'appelle Les Hommes, il est magnifique.
Bah, je vais le télécharger sur mon Kindle.
Franchement, moi, ce livre, il m'a... j'ai pris... j'ai pas pris une claque, parce que c'était tellement doux, c'était tellement beau que c'était pas une claque. Mais ouais, et d'ailleurs, souvent, j'aime bien... j'en achète plein d'exemplaires et j'offre aux personnes à qui j'ai envie d'offrir, enfin, parce que je trouve qu'on devrait tous avoir Terre des Hommes dans son étagère ou dans son sac à vin, et j'ai toujours au moins un exemplaire à la maison. Là en ce moment j'en ai trois parce que je sais que je vais en offrir. Et ouais, ça, ce bouquin il m'a marqué. Je crois que j'ai lu l'année dernière.
Et tu l'as découvert comment?
Mais en fait ce Saint-Exupéry il m'a toujours un peu intriguée, et puis je suis tombée une fois par hasard sur un podcast sur lui sur France Culture. Et la dame qui était une spécialiste, on lui posait la question, on lui demandait, à part Le Petit Prince, qu'est-ce que vous conseillerez de lire s'il fallait n'en lire qu'un? Elle a dit, lisez Terre des Hommes, il est vraiment super. Et je lui ai dit, allez, je vais le lire. Et elle avait raison, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais lire tous les autres. Donc là, je suis en train de lire Vol de Nuit. Mais Terre des Hommes, c'est... Wow. Franchement, j'ai du mal à trouver les mots pour décrire le chef-d'œuvre. Parce qu'en fait, il alterne en permanence entre le récit de sa propre vie, de ses propres expériences. Enfin, c'est pas du tout une autobiographie, puisque ça raconte qu'un petit passage de sa vie. Donc, il alterne en permanence entre des moments que lui a vécu. Et derrière ça, il est capable de sortir pour en effet faire une espèce d'allégorie de la vie en permanence. Mais c'est d'une beauté indescriptible.
Bon, sur ce, on se quitte et je vais aller le télécharger direct pour aller le regarder. Merci beaucoup, Laura.
Merci à toi, Charlotte. Et puis, au plaisir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour en savoir plus sur Laura, je vous ai mis toutes les informations sur pourquoipasmoi.co. Et vous pouvez également retrouver la photo de l'objet de Laura sur Instagram, pourquoipasmoi podcast. En attendant la semaine prochaine, où je mettrai à l'honneur un homme, je souhaite vous remercier pour tous vos messages. N'oubliez pas que j'ai encore besoin de vous. Comment? En mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, ICO ou Castbox, et en vous abonnant sur les autres plateformes. Je vous dis à jeudi prochain
pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.